Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente Dans la peau d'un auteur, un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui lundi 16 avril 2018 à Neuilly, dans la peau de Wally Badarou. Un compositeur improvisateur d'altitude, épris d'aviation, de studio et de liberté. Bienvenue dans les mystères de sa fréquence.
Alors, mon cher Wally, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Peux-tu me dire ton nom et ton prénom, s'il te plaît, pour commencer, en douceur.
C'est compliqué, parce que je peux te le dire à la française ou à l'africaine?
Comme tu veux.
Alors, à la française, c'est Wally Badarou.
Ouais.
À l'anglais, c'est Wally Badarou.
Yeah.
Et à la béninoise, c'est Wally ou Badarou.
D'accord. Ouais. À l'écrit, ça donne pareil?
Oui, oui, tout à fait.
Super. Voilà. Donc, je ne pourrais pas faire les subtilités. Est-ce que tu as un pseudo?
Oui. Ishéola, qui est en fait mon prénom, mon vrai prénom africain. Ce qui signifie en Yoruba, le fruit du travail.
Ah oui.
Oui.
Ça veut dire que tu es le fruit du travail ou tu récoltes le fruit de ton travail?
Ça peut être le fruit des deux façons.
Magnifique.
Voilà.
Peux-tu me dire l'intitulé exact de ton métier? Je veux juste l'intitulé là, pour l'instant.
Je dirais que je suis un compositeur d'improvisation.
Magnifique. Sais-tu depuis quand tu es membre de la SACEM?
Je pense que je le suis depuis 76.
Et du coup, ton nombre d'années de carrière?
Eh bien, 42 ans.
Ton lieu de résidence?
Aujourd'hui, c'est
oui.
Plutôt
okay.
Dans les Hauts-de-Seine.
Quel est selon toi ton signe particulier?
J'avoue ne pas, vraiment pas le savoir parce que j'ai un peu l'impression d'être un caméléon, parfois assumé, parfois contesté. À plein de gens, je crois que je parais très différent. Je suis dans l'hybridité permanente. Je suis dans la multiplicité permanente.
Voilà, ça c'est un signe particulier.
Ouais.
C'en est un. C'est un signe distinctif en tout cas.
Ouais.
Ok. Peux-tu me dire une chose, quelque chose qui te fait du bien?
Eh bien, c'est pas pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps, mais de pouvoir dire à une belle femme qu'elle est belle me fait énormément de bien.
D'accord.
Pourquoi?
Oui.
Je m'explique. Parce que tout se résume à ça. L'artiste que je suis est un homme, un être qui voue sa vie à la beauté.
C'est vrai.
Et s'il y a vraiment un domaine où il est difficile de pouvoir dire où est-ce qu'on en est, c'est bien de pouvoir avouer à un être qu'on la trouve belle, parce que toutes les convenances, les commodités, le politiquement correct nous oblige à une certaine retenue.
Mm.
Et donc, de pouvoir le dire de manière gratuite, c'est-à-dire sans arrière-pensée, eh bien, c'est une chose qui n'est pas reconnue.
C'est vrai.
Et qui est même presque combattue.
Et une chose qu'ont gardé,
oui.
Pour le coup, les enfants.
Et de dire que quelque chose est beau. Vous savez, je remarque que dans n'importe quelle critique, n'importe quel débat critique sur tout et sur quoi que ce soit, de pouvoir dire qu'on aime quelque chose, c'est 10 fois plus difficile que de pouvoir dire qu'on la déteste et de pouvoir et de l'attaquer par tous les sens.
Tout à fait.
Et donc, voilà, d'être un être humain, d'être un homme parmi d'autres hommes et dire cette femme, on la trouve canon, s'il n'y a pas tous les autres qui sont à côté pour avaliser, valider ce choix, on passe pour nunuche, on passe pour un pervers.
C'est vrai,
Alors tout. De dire la beauté, je pense que c'est une chose extraordinaire, surtout quand elle est bien reçue et qu'en face...
Ok. Alors du coup, je vais te compliquer la tâche. Peux-tu me dire quelque chose que tu adores?
Eh bien, je vais t'en donner une parce qu'elle me permet de dire beaucoup de choses que j'aime à l'excès. C'est l'œuvre hybride, encore une fois, de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ok.
Elle constitue pour moi un tout quasi biblique qui me permet d'aborder la nature humaine dans tout ce qu'elle a de complexe, dans tout ce qu'elle a de paradoxal. Mm. Et j'y retrouve tous les grands thèmes qui me régissent un peu et qui me structurent.
D'accord.
Et alors, je l'aime à tel excès que j'en parle tout le temps. Je ne pense qu'à ça. Je l'ai vu 85 fois en salle pour ce qui est de la version cinéma. C'est un excès.
C'est un joli excès. Une chose que tu n'aimes pas.
Une chose que je n'aime pas, et je reviendrai probablement dessus, c'est quand quelqu'un vient me dire « J'adore l'Afrique ».
Qui, comme tout le monde le sait, est un pays.
Exactement.
Avec une capitale.
Ça commence bien.
Ça commence.
Tu vois ce que je veux dire. Et puis ensuite, j'adore. Ouais.
Oui, tu vois très bien. Et quelque chose que tu détestes.
La manière dont on regarde les animaux, que l'on dit aimer aussi. L'usage que l'on fait des animaux. Je dis bien usage, je pèse mes mots parce que, bien évidemment, dans la chaîne alimentaire, l'homme considère qu'étant omnivore, bon. Également, dans l'histoire de la mobilité des êtres humains, se servir d'un cheval pour se déplacer, c'était naturel, il n'y avait pas d'autre moyen. Mais continuer, si tu veux, perdurer, avoir dans le cheval un être qui se doit d'être monté, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça.
D'accord, l'usage, l'utilisation. Quoi,
l'utilisation,
en fait.
Oui.
Ok. Est-ce que tu pourrais te définir aujourd'hui en trois mots?
Multiple, inclassable. Je ne sais pas si c'est multidisciplinaire ou multi. J'ai donné, en fait, quand je dis multiple, ça dit déjà ça. Mais.
Ouais.
Oui.
Tu veux dire la notion de saisir toutes les occasions
Oui. Et il ouais. Y a pour cela un terme qui vient de l'anglais et qui est en train d'être adopté petit à petit. C'est la sérendipité.
Sérendipité.
Oui.
J'adore ça. Mais alors ça veut dire ça?
Oui.
D'accord.
Cette possibilité de rebondir et de saisir l'opportunité d'une chose que l'on n'avait pas du tout planifiée,
ouais,
pour faire autre chose et avoir la capacité de se défaire du projet initial pour poursuivre un autre projet qui s'impose.
Ouais. Et que du coup, on va trouver l'accomplissement dans,
oui,
pas du tout la chose de départ.
Exactement.
Par erreur, finalement.
Oui, et par accident.
C'est ce qu'on appelle par accident,
voilà.
Pas par erreur.
Et finir finalement par s'accomplir.
Oui, complètement, c'est génial ça.
C'est-à-dire finir par obtenir des choses que l'on poursuivait jadis, dont on finit par trouver le chemin, mais de manière complètement détournée.
Parfait. Ça a été quoi, justement, le déclencheur fort pour toi, même si c'est un long chemin, pour basculer dans la musique de manière définitive?
Dans la mesure où ça ne s'est pas fait en une seule fois, je ne pourrais dire qu'il y a eu un moment de bascule.
Ouais.
Il y a eu simplement un moment de non-retour, c'est-à-dire de franchissement d'un cap que je n'avais pas arrêté de franchir dans les deux sens.
Oui, il y avait des allers-retours.
Des allers-retours,
d'accord,
nombreux. Et un jour, c'était le jour où mon père m'a dit « Wally, il faut que tu choisisses. »
Entre quoi et quoi?
Entre poursuivre tes études de droit et faire de la musique. Pour ce qui est de faire tes études de droit, moi je suis prêt à t'offrir le toit, le couvert. Si tu veux faire de la musique, vas-y, prends tes responsabilités. Et j'étais prêt avec mon petit cartable et je suis parti de la maison.
Et tu as choisi la musique pourquoi? Parce que le droit, tu peinais ou parce que tu avais déjà construit quelque chose en
pas
musique?
Pas du tout. Non, ça marchait très bien, le droit. Même sans effort, en plus. Mais la musique était vraiment la chose qui me passionnait. Donc, il y avait une passion.
Ouais.
Non, il n'y a pas eu un moment
net. Il y a eu un ultimatum qui t'a forcé à
me définir, mais même à ce moment-là, il y a eu encore un retour, car qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti, et ne pouvant plus justifier de mes études de droit pour avoir un sursis militaire, eh bien, j'ai été incorporé, puisque j'avais 22 berges. Et je me suis retrouvé à l'armée. Et à l'issue de mon service militaire, je m'étais juré, encore une fois, de ne pas faire de la musique mon métier, de reprendre mes études de droit. Et j'ai pris, et donc je me suis réinscrit à Nanterre, et donc je suis reparti. Et un appel de Manu Dibango pour faire une séance, et hop, je me remets à faire de la musique. Très honnêtement, c'est la musique qui a fait de moi, qui a oui, décidé pour moi. Mmh. C'est-à-dire qu'est arrivé un moment où très honnêtement, je ne pouvais plus véritablement continuer à faire mes études. Donc voilà.
Du coup, quand tu dis que tu as commencé la musique, tu as commencé aussi en tant que musicien,
complètement
de manière quand même globale.
Et de manière complètement informelle, là aussi.
Ouais, ouais.
Musicien, j'ai été depuis le plus jeune âge, sans m'en rendre compte. C'était plutôt... Je veux dire, ça se passait pour moi en Afrique. Nous avions des voisins allemands qui venaient voir mes parents, qui, eux, étaient des musiciens amateurs, et venaient... Chaque fois qu'ils voyaient mes parents, ils disaient à mes parents, « Vous savez quoi, vous devriez faire prendre des cours de piano à votre fils, parce qu'il est vraiment doué. » Et mes parents, « Ouais, mais sans plus. » Et puis, parce que dans la musique, vous savez, l'Africain sait faire de la musique.
Et danser.
Et que mes parents, pour mes parents, ne faisaient de la musique que ceux qui ne savaient pas faire autre chose. Voilà.
D'accord, oui, c'était la voix pour tout. Quoi.
Voilà, la voix pour tout.
Bah, du coup, puisqu'on est là, est-ce que tu peux me dire tes études ?
Études de droit.
Nanterre. D'accord.
C'est tout.
Et en musique, rien ?
Rien.
Pas de formation.
4 mois de piano classique.
4 mois, donc c'est de pratique
de
instrumentale.
De pratique instrumentale.
D'accord, rien sur la composition, non. Rien sur, sur le reste, encore moins sur les outils technologiques, pas de rien. Formation.
Tout autodidacte à 100%.
Est-ce que tu peux me lister les différents lieux de vie que tu as eu? Je sais que tu en as eu beaucoup, il y a eu la France, il y a eu
Le Dahomey de l'époque est devenu Bénin. Oui.
D'accord.
Oui.
C'est le premier?
Le premier, c'est la France, je suis né en France.
La France.
À 7 ans, le Bénin. Ouais. À 17 ans, retour en France.
Ouais.
Et à partir de, on va dire, 1979-80, l'Angleterre, les États-Unis, les Bahamas, parce que la musique.
Et maintenant, est-ce que tu peux me lister tes jobs de départ, on va dire?
Alors?
De départ, avant vraiment de t'envisager complètement comme compositeur.
Bien, au départ, j'étais heureux de n'être qu'un, ce qu'on appelle un musicien de studio.
Ouais.
Enfin... Heureux, en fait, de pouvoir vivre de la musique en tant que musicien de studio.
Ouais.
Mais je ne me suis jamais vu comme musicien de studio, je me suis toujours vu comme artiste en mon nom propre.
D'accord.
Et mon activité de musicien de studio, je la voyais toujours sous l'angle d'une invitation. On m'invitait à participer ou à collaborer à une œuvre. C'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Non pas comme un salarié, mais comme quelqu'un qui participait à une œuvre. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ces histoires de droits d'auteur et de droits voisins, tout ça. À cette époque-là, quand bien même je faisais des études de droit, le côté juridique de la chose m'avait complètement échappé. Et dans la mesure où le synthétiseur, à l'époque où moi je démarrais, était une machine, à l'inverse des machines d'aujourd'hui qui sont pleines de sons, et que, bon, à l'époque, il fallait pratiquement tout faire sur place, en studio. Mmh. Il fallait savoir programmer et... déterminer la partie qu'il fallait jouer et jouer, eh bien, je n'ai jamais eu dans toute ma carrière de musicien de studio une partition à exécuter. Jamais. Donc j'ai, depuis le début, toujours été un musicien d'improvisation sur le tas.
D'accord.
On m'appelait non pas pour jouer telle partie, on m'appelait parce que j'allais amener mes idées sur la musique et faire en sorte que cette chose qu'on appelait l'enregistrement finissent par sonner comme un disque.
D'accord. Qu'est-ce que tu utilises principalement comme outil technologique, mais comme outil pour créer?
Je dirais le synthétiseur de musique.
Ouais.
Mais pas seulement ça, c'est-à-dire le synthétiseur et le studio d'enregistrement, que je considère comme étant pratiquement le même outil. Autrement dit, j'estime que le studio d'enregistrement est mon outil de prédilection. Ce n'est pas simplement un outil de captation d'une interprétation. C'est en soi, pour moi, et je sais que ça va faire jaser et grincer pas mal dedans, c'est en soi pour moi l'outil de création. ultime du musicien moderne.
D'accord.
Je conçois qu'il existe dans l'idée que nous avons de la composition, qui est donc un acte différencié de celle de l'interprétation, la possibilité au créateur de définir l'objet purement de l'esprit, et qu'un interprète viendra par la suite interpréter, alors que moi, ma pratique de la musique est une concomitance permanente des deux. C'est-à-dire qu'au moment où je crée, que je conçois, j'interprète. Et ce qui me permet de le faire, c'est le synthétiseur et son prolongement naturel, qu'est le studio d'enregistrement. C'est comme ça que je me conçois.
D'accord.
C'est moi qui te complique la tâche.
Non, t'inquiète pas. du coup, quand tu dis que tu crées, que tu interprètes, pour créer, j'ai bien compris qu'en termes d'outils, le studio en était un de fond pour toi. Est-ce que tu as d'autres besoins qui peuvent être d'ordre immatériel, de conditions, d'espace-temps, enfin d'autres besoins ou plus internes pour créer?
Oui, tout pas du fait. Tout. Je fais fi de tout environnement. Autrement dit, je suis et je considère pouvoir être et devoir être en mesure de pouvoir créer n'importe quoi, n'importe où.
D'accord.
À ce point d'ailleurs, mon deuxième album instrumental, Words of a Mountain, décrivait les montagnes du monde entier, alors que j'étais à Nassau, Bahamas, les plages, les cocotiers, voilà. Je décrivais des montagnes autrichiennes, japonaises. Donc pour moi...
Et même intérieurement, il n'y a pas
exactement.
Un état où tu...
Non, en réalité, c'est une question de vie intérieure. Et j'amène dans mon studio tout ce que tout ce qui me constitue, tout ce qui me nourrit précédemment. Et le studio est cet endroit neutre. C'est pour ça que j'aurais dû dire ce que j'adore, c'est le studio.
Mais t'amènes quoi dans ton studio, du coup? Je sais pas.
Je m'amène moi.
Ouais. Et tu sais pas de quoi c'est constitué.
C'est-à-dire
de toi.
Je suis à l'écoute de moi.
D'accord.
C'est selon l'objet que je définis ou qui me définit. Je dis, j'ouvre telle ou telle chose que j'ai déjà en moi. Un peu comme un acteur. C'est mon vécu.
Et t'as même pas... Alors ça, c'est pour le fond, la densité du fond, j'ai très bien compris. Et des fois, dans la forme, il y a des choses beaucoup plus anecdotiques, mais comme des rituels ou des choses que peuvent avoir... des manières d'organiser, de choses. Est-ce que tu en as pour créer ou pas du tout?
Non.
Non,
je suis quelqu'un de très organisé, c'est vrai.
D'accord.
Et alors voilà, ça. Là-dessus, on peut difficilement me battre. J'ai toujours été.
Ne me provoque pas.
Non, mais à l'extrême, ultra organisé. D'accord. Au point même parfois de perdre du temps à m'organiser.
Oui,
parfois,
oui.
Et certains producteurs me l'ont reproché, m'ont dit, Wally, tu passes trop de temps à t'organiser, tu devrais à un moment mettre un terme à l'organisation et enfin donner des choses. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul là-dedans. J'ai lu une interview de quelqu'un que j'admire énormément, qui est compositeur japonais Ryuichi Sakamoto, qui procède exactement de la même manière. C'est quand il a une œuvre, surtout quand il a une œuvre de commande, passe 95% de son temps à s'organiser. À mettre les choses en place, à faire des recherches, à faire ceci, s'assurer qu'il a le bon synthétiseur, que tout marche bien, tout le bazar. Et les 5 derniers trucs, il est sous une telle pression que tout sort.
Et toi aussi, tu es comme ça?
Eh bien, je suis comme ça.
Mais tu vois, alors c'est un besoin, quelque part. Ça fait partie de ton système.
Oui, mais en même temps, je déteste cela.
Ah, mais je ne t'ai pas dit un besoin que tu aimes, Wally. Je ne t'ai pas demandé de porter un jugement sur tes besoins. Laisse-moi le faire. Je t'ai juste demandé qu'est-ce qui te met en condition pour créer favorablement. Si l'organisation en fait partie, et encore une fois, c'est toi qui poses un regard négatif là-dessus, mais vu ton œuvre, ça va, quand même lui rendre hommage.
J'ai mal compris ta question, alors.
C'est moi qui l'ai mal formulée,
alors,
peut-être.
Mais alors,
qu'est-ce qui te mettait en condition pour
alors,
créer?
Pour
c'est
créer,
quoi ton besoin profond? Oui.
Alors, c'est même pas un besoin. C'est une chose qui s'impose.
C'est un système.
C'est un système qui s'impose.
Oui.
Eh bien, figure-toi.
Tu as besoin que ce soit organisé.
Eh bien, c'est même... En réalité, c'est une pensée récursive sur ce qui m'est arrivé qui me permet de te dire, de donner la réponse que je vais te donner. C'est l'acquisition d'un instrument nouveau ou l'adoption d'une méthode nouvelle. La mise à l'essai de cet instrument nouveau ou de cette méthode nouvelle a été le point de départ de toutes les meilleures créations que j'ai pu jamais faire.
Ça, ça te stimule. C'est un stimulant.
Exactement.
Très fort.
Ouais.
Mais, voire un déclencheur.
C'est un déclencheur.
Ok. Ah, super. Il y en a, tu vois, c'est un frein pour eux.
Oui, et moi, c'est tout l'inverse.
Ah bah tiens, est-ce que tu as, on change de sujet, dans ton métier, j'imagine que oui, mais peut-être pas, rencontrer, identifier ou tu rencontres actuellement des obstacles, soit récurrents, soit ponctuels, mais qui sont forts à ton cheminement, donc soit à ta création, soit à la progression de ce qu'on appelle la carrière au sens noble. Est-ce qu'il y a des obstacles majeurs pour toi dans ton métier ?
Honnêtement, oui. Non. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai cru en trouver, j'ai toujours vu de manière a posteriori une vague excuse que je me trouvais. Car en réalité, je suis de ceux qui pensent que les obstacles sont au contraire, ne sont jamais stérilisants, ne sont jamais handicapants, sont au contraire des raisons supplémentaires de les franchir et donc d'aller plus loin. Lorsque par exemple à un moment Chris Blackwell, qui est mon mentor, qui est un peu la maison de disques Island comme tout le monde sait, me dit: Wally, ne t'inquiète pas, je vais faire de toi un grand compositeur de musique de film. Quelque part il démobilisait, si tu veux, quelque part le créateur ex nihilo que je voulais être jusqu'alors, mais que j'aurais très bien pu continuer à être et ne pas attendre qu'il me fournisse des films extraordinaires à faire. Ou quand il me dit, quand je rentre à la SACEM, il y a 10 ans, quand Paul Baines, mon ami éditeur, me dit: Wally, tu sais quoi, la SACEM, c'est là que des choses importantes se passent pour toi et tu pourrais faire bénéficier cette maison des choses qui te sont arrivées dans ton parcours. Je suis conscient que cela va vouloir dire que le temps que je vais y passer, ce sera autant de temps que je ne passerai pas à créer. Donc c'est un choix que je fais en connaissance de cause. Et je me suis dit, je ne me laisserai pas manger par la SACEM, ni par les organisations professionnelles multiples auxquelles tu sais que je participe.
Ouais.
Au contraire, je profiterai de ce que ces activités-là me laissent si peu de temps pour mettre à profit le temps qui me reste pour être moins perfectionniste. Car je suis un perfectionniste invétéré et mon perfectionnisme peut se transformer en une sorte de procrastination, c'est-à-dire à remettre toujours à demain la sortie finale de mes choses. Donc je me dis, t'as pas de temps, ben vas-y et sors les trucs.
D'accord.
Donc c'est de dire que réellement, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune véritable, même la prison. Je serai en prison, je continuerai à créer.
Quand tu crées, on parle beaucoup de l'inspiration, alors c'est un sujet vaste.
Oui.
Que chacun comprend comme il a envie d'ailleurs. Pour oui. toi, c'est quoi et d'où elle te vient ?
Eh bien, c'est à peu près ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos des instruments. En réalité, l'inspiration ne me vient jamais du fait que, ok, il faut créer. Et c'est pour cela que je considère, en ce qui me concerne, en toute honnêteté, c'est honnêteté intellectuelle, que je ne suis pas un bon compositeur à la commande, à la demande. Et cela inclut compositeur à l'image. Car mes inspirations musicales, purement musicales, proviennent véritablement, sont concomitantes de mon jeu en tant qu'interprète de mon instrument, le clavier essentiellement. Et donc, les deux sont liés. Les choses, les accords, les machins que je tentais de faire, soudain apparaît cette idée que je ne pensais pas être si importante au moment où je la faisais. Si j'ai suffisamment de jugeote ou de précaution d'en capter l'interprétation au moment où elle m'arrive, ensuite vient à la demande ou parce que j'ai besoin ou parce que je veux développer une autre idée, l'idée de la développer. Je te donne en fait un peu la description de comment les choses m'arrivent. Elles m'arrivent par accident, par le test, par le, la mise en pratique d'une nouvelle méthode ou d'un nouvel instrument que je viens d'acquérir. Et ce faisant, une chose est là qui, ah tiens, c'est marrant, parce que je ne m'y attelais pas de manière cérébrale, je n'y avais pas une approche didactique. Elle est sortie comme ça, et je l'ai captée.
D'accord.
Et des semaines, des mois, des années plus tard, j'en fais une œuvre.
Tu peux me parler rapidement de tes repères artistiques dans ton parcours, ce qu'on appelle les influences, mais te connaissant, je pense que c'est peut-être plus que des influences, c'est peut-être aussi des...
Alors, il y a celles qui ont constitué ce que je voulais être constitutif de mes influences, et puis il y a les influences qui se sont faites sans même que je les recherche.
Oui.
Dans les premières, je mettrais... au moment où j'ai commencé à, si tu veux, être conscient de ce que musique voulait dire et que je pouvais dire j'aime telle chose, ce sont tout ce que les années 60 nous ont amené dans les grands classiques du rock, du jazz, du rhythm blues. Ce serait fastidieux de les énoncer tous. Mais il reste, si tu veux, trois ou quatre grandes figures de cette période, on va dire 60-70, que sont James Brown, pour tout ce qui est du rythme. Et je suis... excuse-moi de te donner un peu dans le vrac, un peu beaucoup de choses. J'ai en train de créer cette Académie de musique africaine qui va mettre l'accent sur ce que rythme veut dire. Et j'estime que le monde occidental ne rend pas suffisamment hommage au rythme. Nous le savons tous très bien. Nous considérons qu'une mélodie, qu'une composition, c'est une affaire essentiellement de notes, donc de mélodie, mais pas suffisamment de rythme. Mais bon, c'est un sujet. James Brown, ça c'est pour ce qui est de cette musique afro-américaine, qui est en fait une musique africaine. Et tout ce qu'il a inspiré par la suite. Quand je dis James Brown, ensuite je pense même à la salsa. Je pense à l'afrobeat de Fela Kuti. Je pense à tellement de choses. Même Miles Davis, Herbie Hancock, tous ces gens-là qui pour moi... avaient cette chose incroyable que d'être aussi sophistiqués qu'ils étaient, mais qui en plus de cela maniaient le rythme de la manière dont ils l'ont fait. Les Beatles, pour moi, restent mélodiquement insurpassables dans le côté presque mozartien d'Amadeus. C'est ce côté, si tu veux... Quand tu vois Paul McCartney, cette manière ultra simple, j'ai trouvé ce truc-là, Yesterday, l'histoire de Yesterday est fabuleuse, quoi. Ça, pour ça, ils m'ont toujours sidéré. Mais d'un point de vue de la sophistication mélodique, en tant que chanteur, c'est Stevie Wonder de loin, loin par-dessus tout le monde. Et pourtant, il y en a de très, très grandes, Elton John, Gino Vanelli. Mais c'est pas Stevie. Stevie, c'est incroyable.
Ah ouais,
c'est carrément incroyable à chaque fois. Et même la mélodie la plus bête, la plus machin.
Chaque morceau est un tube.
Oh,
comment tu expliques ça?
C'est incroyable.
Chaque morceau.
C'est une claque que tu reçois dans la gueule.
C'est vrai.
En matière d'écriture, en matière de performance, en matière de tout.
Ah ouais, je suis d'accord.
Okay. Et ça, donc si tu veux, ça, ce sont les influences.
Conscientes.
Conscientes.
Désirées, oui.
Maintenant, les influences dont je ne savais pas qu'elles allaient un jour mettre d'une importance capitale, ben c'est la musique classique, que mon père écoutait, dont il écoutait certains disques, toujours à peu près les mêmes, la Moldo de Smetana, Casse-Noisette Tchaïkovski, le Beau Danube Bleu, Strauss, enfin bref, il y avait certaines choses que mon père aimait écouter et qu'il écoutait tous les dimanches. Et qui nous barbait, nous, parce qu'on était boum, parce que c'était pas... ça swingait pas. Et aujourd'hui, je réalise à quel point...
ça nourrit la sensibilité.
Mais pas seulement ça, ça me constitue, ça me structure.
Oui, oui.
Et tout ce que j'ai fait par la suite, toute la manière dont j'utilise le synthétiseur pour décrire les paysages, car, si tu veux, quand tu m'as demandé comment est-ce que je me définissais, je t'ai dit compositeur d'improvisation. J'aurais dû te donner une autre réponse. Peintre.
Peintre.
Oui.
Au sens propre.
Au sens audio du terme, c'est-à-dire je fonctionne comme un peintre.
D'accord.
Le studio est mon canevas, cet endroit brut, néant,
d'accord,
dans lequel il n'y a rien. Et couche par couche, je définis ma musique. C'est dans cela que ma musique, j'estime qu'elle est par nature difficile à donner ou impossible à donner en live, dans la mesure où elle est véritablement constituée d'une approche couche par couche.
Peux-tu me dire tes quelques collaborations, il y en a énormément, je sais, collaborations phares, celles qui vraiment pour toi sont déterminantes, soit récurrentes, soit pas d'ailleurs.
Ouais, la première qui me vient à l'esprit, et celle qui me fait vivre encore aujourd'hui, pour les droits d'auteur qu'elle a fini par générer, c'est ce groupe Level 42. La deuxième, c'est toute la sphère Chris Blackwell, Island Records. Alors, c'est ça va de Grace Jones, Talking Heads.
Gros label.
Voilà, parce que j'étais sur place au bon moment. C'est un peu ça, l'histoire aussi. C'est une discussion que j'ai souvent avec Alain Chamfort, à qui je dis, j'ai eu la chance que des choses me soient arrivées. Et Alain me dit, mais non.
C'est pas de la chance.
C'est les autres qui ont eu la chance que tu sois là parce que tu as fait... Voilà, c'est un peu les deux. Il s'est trouvé que dans les années 80, à Compass Point Studio, Nassau, Bahamas, il y avait un studio où, sans le savoir, avec Sly Robbie, de la sphère jamaïcaine, Barry Reynolds, le guitariste de Marianne Faithfull, et moi, nous faisions un son, une musique qui attirait tous ces gens-là, les Talking Heads, Mick Jagger et tout ça. Mais on ne savait pas que c'était nous. Nous, on pensait que eux venaient dans ce studio parce qu'il était le studio de Blackwell et tout. Tu vois, les choses se font sans que tu te rendes compte.
Oui, oui. En tout cas, ce n'est pas forcément dans une démarche qu'elle soit comme ça.
Non. En tout cas, en ce qui me concerne, non.
Ah, ouais.
Je n'avais pas du tout planifié cela.
Tiens, d'ailleurs, en parlant de planification,
oui.
Est-ce que tu as déjà une stratégie?
Aucune.
Même pas inconsciente, du coup. Avec non. Le recul.
J'ai eu des tactiques, mais pas des stratégies. C'est-à-dire qu'il me fallait mon studio, ça c'est une tactique. Ça voulait dire, ça me permettait d'avoir mon outil de travail. Et je considérais que tant que je ne l'avais pas, je ne ferais pas vraiment la musique qui est la mienne. Donc je me suis toujours considéré comme un navigateur solitaire, comme un peintre. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, en principe, de manière solitaire. Mais une stratégie de carrière, non.
Okay.
Et non. Et à telle enseigne...
Même nulle, hein. C'est-à-dire, j'entends par stratégie, même à un moment, tu t'en étais fixé et tu t'es vu qu'elle était vaine.
Non.
Et tu as changé d'optique.
Non.
Non.
Les choses me sont arrivées, j'ai même pas eu le temps de définir quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès que je me suis lancé, dès que cet appel de Manu Dibango à la sortie de mon service militaire, les choses se sont empilées les unes les autres, j'ai même pas eu le temps d'échafauder une stratégie.
Mais alors du coup, quand tu dis que les choses se sont empilées, on a l'impression qu'elles s'empilent,
oui.
Et que toi, tu peux dire ni oui ni non.
Exactement.
À quoi tu fais confiance? C'est quoi ton instinct pour les suivre?
Eh bien, je vais te dire une chose. Je ne savais pas dire non, je n'ai jamais su dire non. J'ai appris beaucoup plus tard à dire non. Donc je prenais tout. Mais absolument tout.
Mais juste par difficulté de dire non, ou parce que tu savais que ce que tu prenais, au fond de toi, c'était bon pour toi?
Je n'avais même pas cette réflexion. J'aimais être en studio d'enregistrement. Ça, il me semble, la chose la plus importante. Et quiconque m'offrait la possibilité d'être dans un studio d'enregistrement, et c'est là la vanité un peu de bien des choses, on pouvait me faire signer n'importe quoi.
Donc ce qui a guidé, c'était cette recherche aussi
d'être
de rester au contact de ça.
D'être en studio.
D'être en studio.
Oui.
Et c'est quand même un élément important.
Ça a l'air... Non mais attends, aujourd'hui c'est débile.
Bah,
mais à cette époque-là, quand on sait que être en studio, c'était pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ça signifiait que tu avais la confiance d'un producteur, parce que studio,
sûr,
ça coûtait de l'argent.
Sûr. Oui, maintenant,
oui. Sauf qu'à l'époque, c'était pas ça. Donc, ça avait une valeur telle que quiconque me disait, Wally, tu entres en studio, qu'importe finalement avec qui j'étais, j'étais heureux. J'étais heureux, je veux dire, dès ma sortie de mon service militaire. Écoute, pour te donner dans l'anecdote, Level 42, ça démarre comment? Ça démarre par un... Je crois que tu étais là quand j'en ai parlé. Par un directeur artistique de chez Barclay. Il se trouvait que j'étais signé chez Barclay à cette époque-là, mais bon, je te fais l'histoire courte. Qui, pour arrondir ses fins de mois, faisait des musiques au kilomètre pour film Rose. C'était avant le Minitel. Hein. Mmh. Et qui me dit, Wally, je te file 1000 balles, tu viens me donner un petit coup de piano acoustique. Et moi, rien que parce que j'allais être en studio d'enregistrement, oui, oui, j'arrive et je fais du piano complètement oblivious, comme disent les Anglais, complètement ignorant du droit de propriété des intellectuels, de ce que j'allais introduire. Rien, je n'ai rien signé, j'étais heureux d'être en studio et de jouer sur un piano de bonne qualité et de pouvoir m'entendre. Et que quelqu'un me paye pour ça. Je trouvais ça incroyable. J'étais le roi du monde. Et à cette séance-là, il y avait un bassiste anglais, son nom Julian Scott, qui me dit « Hey Wally, I love what you do. Je vais parler de toi, mon frangin est en train de travailler sur un truc. » Et une semaine plus tard, je reçois le coup de fil de son frangin, cet anglais-là, que j'avais rencontré lors de cette séance, à laquelle j'aurais pu dire non, compte tenu que, attendez-moi faire de la musique pour film pendant un temps, vous me voyez moi faire ça? Non, j'ai dit oui. Donc son frangin m'appelle et me fait travailler sur un truc qui va s'appeler pop music. Pop music, qui est un tube international en Angleterre, aux États-Unis, partout. C'était ça le début de mon aventure internationale.
Ouais, pas mal, c'est joli.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, c'est de dire à quel point les choses, c'était parce que je ne pouvais pas dire non, ou je ne savais pas dire non, ou en fait, c'est même pas que je cherchais même à dire oui ou à dire non, j'étais tellement heureux simplement de pouvoir être en studio, de pouvoir jouer avec de bons musiciens, je ne me posais pas trop de questions sur le devenir juridique de chaque chose.
Maintenant, avec toute cette accumulation d'expérience,
oui.
Tu peux dire que tu es pleinement dans ta voie, que tu es heureux et que c'est là que tu dois être.
Aurais-je pu être plus, moins, autre chose? Je n'en sais rien. Donc, très honnêtement, je ne sais pas. Quand un fermier texan m'envoie un mail en me disant combien ma musique...
Ça devrait s'appeler un textier, d'ailleurs.
Voilà.
Un texan, c'est pratique.
M'envoie un mail ou un truc Facebook me disant combien ma musique a transformé sa vie, a été la bande-son de son mariage. J'y trouve une telle... Ça vaut 100 disques d'or, ça vaut tous les machins pour moi, que certes, je ne roule pas en Bentley ou en Jaguar, et alors? Donc je ne sais pas, peut-être que j'aurais pu être plus si j'étais un peu plus planifié, plus regardant sur la manière de... Si j'avais pris un manager, j'ai jamais eu de manager par exemple. Tant j'étais jaloux de cette liberté qui est la mienne, de pouvoir dire oui ou non, de ne pas être lié à un plan de... Tu vois?
D'accord. Bah, du coup, c'est quoi ton rapport alors à la... Est-ce que tu dis j'aurais pu être plus ou différent, en tout cas, à la notoriété? Est-ce que tu l'as vu évoluer? Est-ce que tu en retires des bénéfices?
Forcément, j'en tire des bénéfices. Et en même temps, beaucoup de choses se bousculent, parce que c'est une question vachement intéressante que tu me poses. D'abord, il est humain de penser qu'on n'est jamais suffisamment célèbre. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres choses qui auraient dû normalement. Et toute la question, en fait, a à voir avec ce qui a été le générateur de cette notoriété. Est-ce des choses dans lesquelles tu te reconnais pleinement et pour les raisons pour lesquelles tu reconnais? Si oui, à ce moment-là, tu vis bien ta notoriété. Il se trouve que j'ai cette chance-là, que la plupart des choses qui ont... eu du succès, l'ont été avec un certain degré de malentendu forcément inhérent à quelque succès que ce soit, mais je m'y retrouve en gros.
Oui, te correspond.
En gros.
Est-ce que tu as une journée type?
Non. Non, et puis je pense que ça, c'est la beauté de notre machin, c'est qu'il n'existe pas de journée type. Un jour, je peux être en conseil d'administration ici, un autre jour, je peux être dans un avion à Los Angeles, un autre jour, sur scène, parce que maintenant, je me mets à faire de la scène. La journée type telle que je la connais, c'est d'une journée de... S'il pouvait y en avoir une, c'est celle dans mon studio.
D'accord.
Ça n'a rien de spectaculaire.
D'accord. Et à part l'organisation,
oui.
Qui est donc à la leitmotiv chez toi, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi dans tes journées qui reviennent forcément, quelle que soit ton activité? Des choses auxquelles tu tiens pour te structurer dans ta déstructure d'artiste? Ou même pas?
Depuis quelques années, je considère que tout me nourrit, donc je ne me freine surtout pas de tous les plaisirs. extérieur à la simple musique.
Alors tu disais que tu avais une certaine philosophie de vie, en tout cas, voilà, qui était nourrie par les auteurs, et j'imagine d'autres choses. C'est quoi tes valeurs, tes axes fondamentaux de conduite? Alors pour le coup, ça rejoint l'artistique, mais l'être humain que tu es, c'est quoi ta valeur, tes valeurs importantes?
J'ai honte de le dire.
T'as honte de parler de tes valeurs? Ça commence déjà très bien.
Oui, parce que en soi, je ne sais pas si c'est...
Tu veux dire que c'est la pizza?
Si elle a autant de vertus que ça. C'est le dépassement de soi.
D'accord. Ça procure de la honte, c'est étonnant quand même.
Eh bien, parce que quelque part, il y a malgré tout une idée de compétition.
Avec toi-même.
Oui.
C'est là où ça change tout.
C'est bien ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. C'est une excuse quand même, parce que très rapidement, cette compétition avec soi-même, parfois se mesure ou s'exalte par la confrontation avec les autres.
Oui, au contact...
Tu vois ce que je veux dire? C'est l'essence
même de l'artiste, si on va par là. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, et du sportif, et du politicien. Tu pourrais dire ça de pratiquement toute activité humaine.
De tout être humain.
Voilà.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que... Il y a quelque chose qui me gêne dedans, car très honnêtement, autant je conçois qu'on ne puisse pas faire autrement, autant je voudrais qu'il puisse en être autrement. Et donc, le côté compétitif des choses, pour moi, est une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal à vivre, parce que j'estime qu'elle est à la source de toutes les guerres, et de toutes les haines et de tous les désastres qui les accompagnent. C'est-à-dire qu'autant le beau en ressort, autant les choses... Tu vois, par exemple, je suis de la génération de ceux qui ont été témoins de toute l'épopée Apollo, marcher sur la Lune et tout. Et pour moi, c'était un truc incroyable. L'humain n'a jamais rien fait de plus incroyable à ce moment-là. Tu peux mettre l'informatique, l'Internet et tout le bazar, c'est génial. Mais ce n'est jamais, à mon sens, que... l'extension de choses dont les prémices étaient déjà fondées dès les années 50-60. Et c'est, à mon avis, cette poussée vers, ce dépassement vers un autre planète que la nôtre, la possibilité d'aller aussi loin que ça, qui, à mon sens, a été la rampe de lancement de toutes les données technologiques que nous connaissons aujourd'hui. Cela étant dit, on n'oublie pas que cette chose Apollo ne s'est pas faite. C'est inscrit dans cette compétition entre l'Est et l'Ouest, hein, les États-Unis, l'Union soviétique. Et donc, c'est une question de compétition. C'est grâce à la compétition qu'on en est arrivé à cette chose extraordinaire qui est de pouvoir poser un homme sur la Lune. Et que depuis, on est capable de faire toutes sortes de choses, la miniaturisation de l'informatique qui nous permet d'avoir des iPods, tous ces trucs-là. Tout ça, ça provient de cette chose-là. Oui, certes. Est-ce qu'on aurait pu arriver à de telles choses sans passer par les guerres que ça a voulu dire, le Vietnam, machin, tout ça, c'est ça qui m'interroge. Et je rêve d'un monde en la matière, et c'est pour ça que je reviens à 2001, l'espace, parce qu'il faut bien voir que c'est une œuvre qui est beaucoup plus large que celle dont on a une perception purement cinématographique, pose la question de est-ce que l'après-humain, le post-humain, sera cet être capable d'arriver à accomplir des choses extraordinaires sans l'esprit de compétition.
Est-ce qu'il y a une forme pour toi d'instabilité dans la condition d'un auteur, d'un artiste en général, mais d'un artiste-auteur? Si oui, laquelle? Et est-ce qu'elle est bien? Ou est-ce qu'on peut avoir de la stabilité dans le fait de créer en permanence sur des choses mouvantes?
Qu'est-ce que tu entends par stabilité? Une stabilité de vie?
Justement, j'attendais que tu me répondes pour voir sous quel angle tu... Après, moi, je peux te dire, effectivement, ça peut être une stabilité de confort, de vie matérielle, tout ça, mais ça peut être une stabilité intérieure aussi, qui rejoint plus la confiance ou la sécurité intérieure de « je fais pour faire » ou « je fais parce que j'espère que ça va marcher ».
Un artiste n'est jamais... aussi intéressant que lorsqu'il exprime des choses qui sont dans le décalage, dans la souffrance même, dans des traumatismes, dans du vécu de choses qu'il expose. Donc il se met, c'est une mise à nu quelque part, dans chaque œuvre que nous faisons, qui résonne, qui entre en résonance avec ce que idéalement une grande partie du public voudrait entrer en résonance avec. Je ne sais pas si je suis clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'un confort de vie n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour un artiste pour exprimer des choses fortes. Cependant, et c'est probablement la raison pour laquelle c'est avec bonheur, et joie et militantisme que je passe mon temps à défendre le droit d'auteur, l'idée qu'au moins au niveau de ses revenus, il y ait possibilité à un artiste de pouvoir vivre son métier parce que de l'exploitation de ses œuvres, il peut en tirer un revenu proportionné à son succès, ou à leur succès, pour moi me paraît fondamental. Qu'il en soit autrement, pour moi, est une injustice intolérable.
Qu'est-ce qui fait que cet environnement va être favorable pour avoir cette sécurité de vie? C'est quoi les conditions pour toi de ça? Il faut quoi?
Il faut ce que nous sommes déjà, il me semble, dans certains pays comme le nôtre en France, arriver à créer, c'est-à-dire un état de droit, qui permette donc, une fois que des législations sont adoptées et disent clairement quelles sont les dispositions permettant aux créateurs de vivre de leurs droits d'auteur.
Donc de l'information.
Etc. Oui, eh bien, il faut ce cadre-là. Si je dis cela, c'est que j'ai conscience que certains pays de mon continent d'origine, par exemple, n'ont pas ce genre d'état dit de droit et donc ne peuvent pas espérer en vivre. Et en sont encore à être dépendants d'un certain fait du prince qui donne ou ne donne pas.
Et du coup, ta création, elle peut aller dans le mur.
Exactement.
Donc il faut ça pour toi.
Il faut cela. Et nous l'avons dans une grande partie déjà.
Ouais. En quoi tu te sens différent en tant qu'artiste, dans ton métier par rapport aux autres? Ça, différent, tu peux l'entendre comme tu veux, unique, décalé, voire déréglé si ta différence elle est très puissante de ton point de vue.
Je vais être franc avec toi.
T'as intérêt.
Chaque fois que je crois que je suis différent des autres, je m'aperçois, il suffit de me pencher un tout petit peu sur la vie des autres pour me rendre compte que je ne suis pas à ce point exceptionnel. Je cherche malgré tout, et si tu veux dire vraiment les choses, ce que je recherche, si jamais il y a, c'est pas une stratégie, mais un but que je poursuis, c'est bien cela, c'est la singularité. C'est être irrésistible et singulier à la fois.
Alors ça, c'est ce que tu recherches.
C'est ce que je recherche.
Et je
ne dis pas que j'y arrive.
Voilà.
J'y suis arrivé selon certains. Je serais incapable, moi, de parler. Mais certains me le disent. Et il m'arrive, je dois le reconnaître, d'être heureux de me l'entendre dire. Mais je suis... Quand je recherche vraiment les choses, je sais d'où viennent la plupart des singularités que les gens dont ils me louent.
Et est-ce que des fois, tu te sens décalé? Alors là, sans parler d'histoire de notions de valeur artistique, mais tout simplement dans ton approche, dans tes fondations, est-ce que tu te sens en décalage avec ce qui se passe, ton
complètement,
milieu
complètement. C'est pas des
de quelle manière?
Pas des fois, tout le temps.
Comment? Pourquoi?
Déjà, ne serait-ce que parce que je ne suis pas un artiste de scène, par exemple.
Ouais.
La plupart des artistes considèrent que la scène est le lieu de la vérité de leur art. Moi, ce n'est pas du tout cela, c'est l'inverse. Je considère que le studio, l'enregistrement, est la vérité de mon art.
D'accord. Donc là, tu te sens décalé dans cette vision des choses.
Oui, déjà.
Ouais.
Je n'ai pas de manager, je ne cherche pas la compétition, je ne cherche pas à être le premier. Je cherche à être singulier, inclassable.
Donc, tu es un peu en roue libre, quoi.
Oui.
Et ça te crée ce décalage avec ton époque et
avec tout
ce que tu sens.
Avec tout mon environnement, avec mon époque. Le fait d'être un Béninois... étranger dans son pays d'origine, français, étranger également aussi ici, parce que tant qu'on n'a pas entendu parler, et on ne sait pas ce que je fais, donc étranger partout. Et je n'en vis absolument pas une souffrance, au contraire.
Tu sais que c'est peut-être ce que vit Dieu,
d'être
étranger partout.
C'est vrai,
ça se trouve.
C'est beau ce que tu dis là.
C'est venu de
vrai. C'est vrai, Dieu est étranger partout.
Mais c'est toi qui dis quelque chose de haut, tu dis je me sens étranger partout. Je dis peut-être c'est que vrai. Dieu est étranger partout.
C'est vrai.
Est-ce que tu as eu dans le métier une descente, ce qu'on appelle une descente, une chute, un moment vraiment de creux que tu as identifié, et qui n'est pas forcément grave en soi, mais sur un moment que tu as mal vécu?
J'ai eu plein de petits moments de frustration, mais je ne peux pas parler d'un moment ou de...
Tu n'as pas eu genre de trou noir un moment où tu as fallu du temps pour réagir et partir sur une autre direction?
Non, parce que je n'ai pas poursuivi sans... Enfin, dans la mesure où, effectivement, d'abord, je ne faisais pas de plan sur la comète, et deuxièmement, je prenais les choses telles qu'elles m'arrivaient toujours.
Non. Donc, non. OK. Tu peux me dire, dans quelle instance tu es engagée?
Oh.
Je sais beaucoup. Alors, liste-les.
Ben, écoute, la CCM, ouais. Je trouve que j'en suis aujourd'hui vice-président.
Ouais.
Vice-président de l'UCMF. Non, pas vice-président du SNAC, ouais. Administrateur de l'UCMF, trésorier de l'UNAC, président de l'Académie de musique africaine que je suis en train de fonder.
Ouais. Pour l'Europe aussi, tu
es... l'Europe, je représente le SNAC, effectivement, dans la partie musique contemporaine.
D'accord.
De EXA. Mais ce n'est pas en soi un titre officiel.
C'est une forme d'engagement. Et oui. Pour synthétiser tout ça, c'est quoi l'importance de toi pour ça? Évidemment, défendre le droit d'auteur et voilà.
Oui.
Et est-ce que tu as découvert une importance particulière que tu n'avais pas envisagée, en dehors de ce moteur-là?
Je suis, comme je le disais, quelqu'un qui faisait feu de tout bois. Donc, je savais que j'avais en moi des dispositions, voilà le mot. Des dispositions de tribun, de quelqu'un qui peut parler, qui peut engager et... pas convaincre, mais convertir, ou peut-être pas convertir, mais faire changer la vue de certaines personnes à certaines choses. Et rien que ça, pour moi, c'est formidable.
Tu peux me faire vite fait un état des lieux du métier?
Oh,
le vite fait n'est pas compatible avec l'état des lieux, mais c'est fait exprès.
Je pense que le métier se porte pas trop mal. Cependant, j'estime que le monde numérique ne paye pas la création, je parle pas...
Ouais.
À la juste hauteur de ce qu'elle lui doit, de ce qu'il lui doit.
D'accord.
Et que, malheureusement, s'il devait le faire, je ne sais pas s'il pourrait encore exister. Si Spotify payait ce qu'il devait au droit d'auteur, peut-être qu'il n'y aurait pas de Spotify. C'est un peu le dilemme dans lequel nous sommes.
Oui. Mais tu penses que globalement, ça va?
Bah, écoute, okay. Ça va mieux que ça l'était, que ça allait il y a 4 ans.
Et alors maintenant, pour finir, on est le 1er janvier.
D'être plus souple.
OK. Un conseil?
Ben, c'est la résolution que je vais prendre.
Un conseil, c'est être plus souple?
Ben oui, parce que nous sommes tous un peu sur nos ergots, un peu, il me semble.
Super.
Et les choses iraient beaucoup mieux si on savait s'écouter et sentir que, quelles que soient les positions, c'est toujours politique en réalité, car les arguments valent aussi bien dans un sens que dans le sens contraire, la plupart du temps.
Impeccable. Et dernière question, un vœu.
Pour une fois, je vais être assez égoïste. Je peux?
Tu dois.
Je souhaite bonheur à l'Académie de la musique africaine.
C'est, en termes d'égoïsme, il y a pire. Je m'attendais à pire.
Non, mais c'est ça. Ça est mon vœu.
Magnifique. Je te remercie. Vraiment.
De rien.
Je suis très touchée de ta confiance. Merci beaucoup.
Il est 15h44, heure d'atterrissage, et heure pour nous de sortir de la peau en apesanteur de Wally Badarou. Merci d'avoir fait le voyage, et à très bientôt pour le prochain.